Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Des imbéciles irresponsables, voilà comment le Premier ministre a qualifié les auteurs de l'incendie d'un chapiteau de cire qui accueillait des enfants à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Les responsables locaux promettent de reconstruire au plus vite ce lieu de culture victime des violences urbaines. Emmanuel Macron est arrivé en Chine, visite placée sous le signe des bonnes relations commerciales entre Pékin et l'Union européenne. Bruxelles qui enquête sur des ententes un peu trop cordiales là entre deux enseignes de grande distribution, Casino et Intermarché, les clients pourrait avoir été floué. Et le prix Goncourt décerné aujourd'hui à Jean-Paul Dubois, tout en joie retenue, tandis que Sylvain Tesson n'a pas boudé son plaisir de recevoir le prix Renaudot. Un 18-20 donc en direct de Berlin, Fabienne, ce soir.
Absolument, pendant deux heures, on vous emmène sur les traces du mur du Berlin, les traces aussi de ce qui a été la RDA. Vous verrez que physiquement, il ne reste pas grand-chose, ou un petit peu quand même, mais dans les têtes, c'est très différent. On demandera à des jeunes gens de moins de 30 ans, par exemple, ce qui leur a été transmis, ce qu'ils en gardent aujourd'hui. Nous serons accompagnés pendant tout ce parcours et pendant ces deux heures par l'historien Nicolas Hoffenstadt et beaucoup d'autres invités aussi. Allez, à tout de suite, Amélie.
France Inter. À une autre époque, on parlait de sauvageons. Aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe condamne une bande d'imbéciles. En visite à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, il s'en est pris sévèrement aux auteurs des violences urbaines de samedi soir et aux incendiaires d'un chapiteau de cirque où une association, la Compagnie des Contraires, accueillait des enfants de ce quartier difficile.
Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violents. Nous sommes parfaitement conscients de ce que lorsque nous bousculons les trafics de stupéfiants, cela crée des tensions, des déstabilisations. Car je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, en colère face aux jeunes qui ont provoqué le chaos ce week-end à Chanteloup, Chanteloup-les-Vignes, où après l'indignation, l'heure est à la mobilisation des élus et des responsables locaux pour reconstruire au plus vite ce chapiteau. Il accueillait 2000 enfants de la ville, initiés au théâtre et aux arts du cirque. Nathalie Domenego s'est rendue sur place aujourd'hui.
Après le choc hier, Néo Tomasi, la fondatrice et directrice de l'association, se dit prête à retrousser ses manches.
On va refaire, on va reconstruire. On est là et on reste pour le territoire. C'est même pas pour nous qu'on reste. Aujourd'hui, moi, Néo Tomasi, si vous me demandez où j'ai envie d'aller, j'ai envie de dire, j'ai envie de me barrer dans un petit village au Brésil, au bord de la mer, et oublier que la humanité existe. Mais quand je suis arrivée hier, directement du Brésil, d'ailleurs, ici, que je vois les mamans qui m'attendaient avec les enfants en train de m'embrasser, de se jeter dans mes bras, tous ensemble, on dit non, il faut continuer, c'est tout.
Dès lundi prochain, les activités vont reprendre dans les salles municipales de Chanteloup et la ville va investir dans un chapiteau provisoire le temps que le nouveau cirque soit reconstruit. Catherine Arnoux, la mère de Chanteloup.
C'était les parents qui étaient là hier et les petits-enfants qui étaient là hier qui pleuraient. Vous savez, c'est dur hein, de voir des gamins qui étaient là. Ils étaient 7-8 ans, ils étaient en train de montrer des photos de ce qu'ils faisaient les semaines précédentes et ils chialaient devant l'arche. C'est très dur, ils nous donnent des leçons. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas les décevoir. Donc on va leur montrer qu'on est des adultes en qui on peut avoir confiance.
Aux côtés de Catherine Arnoux, Pierre Bédier, le président du conseil départemental, il a promis que le chapiteau serait reconstruit dans moins d'un an et entièrement financé par les Yvelines.
Et du côté de l'enquête, deux personnes ont été arrêtées après l'incendie, dont un mineur, toujours en garde à vue. À Béziers, l'école des Tamaris, elle ne rouvrira pas, en tout cas pas dans ses murs actuels. Selon les experts, le bâtiment a été trop fragilisé par l'incendie de jeudi dernier. Il faut le détruire totalement pour le reconstruire. Le feu criminel a ravagé 17 classes. 300 élèves se retrouvent sans école. Aujourd'hui, ils seront accueillis dans d'autres établissements à partir de la semaine prochaine. Le seul suspect arrêté, un ado de 15 ans, a été mis en examen hier pour destruction en bande organisée. Il a été placé en détention provisoire. À Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, l'enquête en est à ses prémices. La cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été attaquée à la voiture bélier. Les malfaiteurs ont dérobé une partie du trésor de l'église la nuit dernière. Des objets liturgiques de valeur, apparemment, des calices, des ostensoirs. La cathédrale est une étape des pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un joyau du Béarn. Des investigations à l'échelle européenne maintenant. La Commission, à Bruxelles, veut savoir s'il y a eu des arrangements douteux entre deux des plus grandes enseignes de distribution en France, Casino et les Mousquetaires, c'est-à-dire Intermarché. Une enquête sur une centrale d'achat commune entre les deux marques qui a existé entre 2014 et 2018. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Angélique, sur quoi portent les soupçons des instances européennes ?
Et bien sûr, impossible le détournement de la fonction première de cette centrale d'achat. En 2014, le groupe Casino, qui a aussi les magasins Franprix, Leader Price ou encore Monoprix et Intermarché, avait, vous l'avez dit, décidé de grouper leurs achats. Acheter de plus gros volumes de produits alimentaires ou d'hygiène permet d'en faire baisser le prix. Ces alliances, elles sont de plus en plus courantes dans le secteur de la grande distribution et peuvent tout à fait avoir un effet positif, souligne le communiqué de la Commission européenne, mais à une condition, que ces avantages soient bien répercutés dans le caddie des consommateurs. Or, ces rapprochements entre groupes concurrents sont parfois utilisés pour se mettre d'accord sur une politique de prix ou bien sur l'organisation de leur réseau de magasins au détriment cette fois des clients. En février 2017 et en mai 2019, le gendarme européen de la concurrence avait effectué des contrôles inopinés dans les locaux de Casino et d'Intermarché. C'est à la suite de ces visites qu'une enquête est donc ouverte formellement aujourd'hui. Elle devra déterminer s'il y a eu ou non une entente entre les deux groupes qui aurait faussé le jeu de la concurrence. On rappelle qu'en cas d'infraction, les amendes sont très sévères. Le dernier exemple français, c'est le groupe de légumes en boîte Dossi, condamné en septembre à signer un chèque de 18 millions d'euros.
Oui, quand même. Angélique Bouin, merci, en direct de notre bureau européen à Bruxelles. Le commerce international au menu d'une visite présidentielle. Emmanuel Macron est arrivé en Chine, à Shanghai, la capitale économique du pays, à la tête d'une délégation pas seulement française. Le chef de l'État ne vient pas défendre uniquement le drapeau tricolore, il a emmené avec lui une ministre allemande et le commissaire européen irlandais Phil Hogan. Le président Macron veut dire à Pékin qu'il faut cultiver une relation avec l'Union européenne et pas seulement avec l'ami français. Visite suivie par Dominique André.
C'est une réunion inédite qui s'est tenue ce soir à Shanghai avec Emmanuel Macron, le commissaire européen Phil Hogan, des entreprises françaises et allemandes. L'objectif était d'évoquer le climat des affaires difficile en Chine pour les entreprises étrangères, mais au-delà, le message à tous était « il faut jouer européen ». L'annonce de l'accord sino-européen sur les indications géographiques protégées, qui estampille par exemple le vin de Bourgogne et les nouilles chinoises Longko Fengse, est une première étape dans la stratégie européenne, analyse l'ancien ministre socialiste Jean-Marie Le Guen, qui accompagne le chef de l'État en Chine.
Je crois que c'est l'apport spécifique d'Emmanuel Macron dans la discussion entre la France et la Chine, ça a été d'européaniser en quelque sorte notre position. En tant qu'Européens, nous pesons plus vis-à-vis de la Chine. Et puis c'est bien aussi que l'Europe parle d'une seule voix sur les grandes questions de souveraineté internationale. Et on est en plein dans le débat entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. L'Europe parle d'une voix, notamment avec Emmanuel Macron.
C'est un signal très fort pour l'Union européenne et la Chine. J'espère que nous aurons marqué un premier point qui en appellera d'autres, a déclaré le commissaire européen Phil Hogan, qui s'exprimait ce soir aux côtés d'Emmanuel Macron. Shanghai, Dominique André, France Inter.
Et sur les questions des droits de l'homme, l'Élysée assure qu'Emmanuel Macron abordera le sujet sans tabou, tout comme la situation insurrectionnelle à Hong Kong. Mais la diplomatie chinoise a déjà mis un stop. Hong Kong et le Xinjiang, où vivent les Ouïghours persécutés, relèvent des affaires intérieures de la Chine. Il n'est pas pertinent que ce soit à l'ordre du jour, insistent les autorités chinoises. L'accord sur le nucléaire iranien, encore fragilisé ce soir, Téhéran annonce produire 5 kilos d'uranium enrichi par jour. C'est 10 fois plus qu'il y a 2 mois. L'Iran s'affranchit peu à peu de l'accord international signé en 2015. C'est une riposte au retrait des États-Unis de ce pacte. Les Américains ont rétabli de lourdes sanctions financières sur la République islamique depuis 1 an et demi. La colère sociale en Irak contre le pouvoir corrompu et incompétent. Et l'Iran pris pour cible car le pays voisin est accusé de soutenir le système politique irakien. 4 manifestants ont été tués à Kerbala, près du consulat iranien, dans le sud du pays. Les protestataires ne se démobilisent pas face au Premier ministre qui appelait à retourner à la vie normale, bien au contraire. 3 jours de deuil au Mali jusqu'à mercredi donc. La décision du président malien Ibrahim Boubacar Keïta après l'attaque revendiquée par le groupe État islamique dans le nord du pays. 49 soldats ont été tués vendredi à Indelimane, l'attaque la plus grave de ces dernières années. La région est de nouveau en proie aux violences. Il y a 1 mois, 40 soldats mouraient dans une double attaque djihadiste. En Italie, c'est le racisme qui gangrène le football. « Vous devenez fou, réveillez-vous, ignorant », écrit aujourd'hui Mario Balotelli, l'attaquant de Brescia sur Instagram. Le footballeur a essuyé hier de nouveaux cris de singe lors du match à Vérone, 11e journée du championnat. Interruption de quelques minutes et la rencontre a repris. Balotelli a marqué en fin de match sans pouvoir éviter la défaite de Brescia et la défaite du foot surtout face aux cris de haine à Vérone, mairie tenue par l'extrême droite. C'est la correspondance italienne de Bruce de Guerre.
Il y a bel et bien eu des cris racistes, mais venant d'à peine une quinzaine de supporters. Voilà ce que mentionne le rapport du membre de la Fédération de football qui était placé dans le virage des Ultras de Vérone. La montagne va-t-elle encore accoucher d'une souris ? Se demande alors le quotidien sportif, la Gazzetta dello Sport. D'autant plus que les réactions se multiplient et qu'à Vérone, on se défend. Le maire de la ville a même condamné l'attitude de Balotelli qui a envoyé le ballon dans les tribunes après avoir entendu les cris. Sans aucune raison, dit le maire, il a cloué au pilori médiatique un public et une ville. La réaction du chef des Ultras de Vérone est on ne peut plus claire. Sur une radio locale, il affirme que Balotelli est italien car il a la nationalité italienne, mais qu'il ne pourra jamais être entièrement italien. Avant d'expliquer qu'il y a aussi, je cite, un nègre dans l'équipe de Vérone qui a marqué hier et qui a été applaudi. Ce matin, le ministre des Sports a réclamé des décisions concrètes pour lutter contre le racisme dans les stades. Demain, le juge sportif dira s'il faut ouvrir une enquête ou si Vérone écope d'une simple amende. Rome, Bruges de Galzin, France Inter.
En région parisienne, le Premier ministre français donne le coup d'envoi du chantier du village olympique pour les JO de Paris 2024. Chantier controversé, pharaonique pour accueillir les athlètes du monde entier sur un site d'une cinquantaine d'hectares entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis dans 93. Le gouvernement veut croire que ces installations profiteront ensuite aux populations de Seine-Saint-Denis et au développement des pratiques sportives dans ces territoires. Là, c'est un peu la médaille d'or de la littérature française. Le titre olympique pour un écrivain. Le prix Goncourt a été décerné aujourd'hui à Jean-Paul Dubois pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Verdict disputé, il a reçu 6 voix contre 4 pour Amélie Nothomb. On écoute l'heureux lauréat et sa joie contenue.
J'ai de la difficulté à être heureux, mais bon, j'avoue que oui, je suis heureux, bien sûr. C'est une fierté, je vais vous dire, pour mon père qui est mort, qui a écrit toute sa vie. Je suis super heureux pour lui. Et j'ai d'ailleurs mis sa montre, vous voyez. Ma vie va pas changer à partir d'aujourd'hui, je peux vous le garantir. Je suis pas un grand consommateur, j'ai pas besoin de choses extraordinaires. Je vis entouré de gens formidables dans un endroit merveilleux et je n'ai besoin de rien d'autre.
Jean-Paul Dubois, publié aux éditions de l'Olivier Prix Goncourt 2019. Il sera l'invité de Léa Salamé demain à 7h50 sur Inter. Le prix Renaudot, décerné dans la foulée, revient à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges, édité chez Gallimard. Il n'était pas dans la liste des finalistes. C'est une surprise délicieuse pour l'écrivain aventurier qui, lui, est plus démonstratif.
Je suis content parce que j'ose espérer, mais peut-être me fais-je une illusion, que un prix qui met la lumière sur ce livre permettra peut-être de renouer la conversation et l'amitié qui a été perdue entre les hommes et les animaux, entre les hommes et la nature, entre les hommes et le monde sauvage. C'est dommage de tenir les bêtes pour uniquement des compagnons pour la promenade, ou bien du gibier, ou bien de la matière alimentaire. Il y a autre chose. Les bêtes, ce sont des reflets de la beauté. Ils sont nobles, ils sont calmes, ils savent pourquoi ils sont là et on pourrait peut-être s'en inspirer. Alors, puisse ce Renaudot être aussi un Renaudot à poils et à plumes.
Sylvain Tesson et juste avant Jean-Paul Dubois au micro, d'Ilana Mor-Youssef, noté pour être complet que le Renaudot Essai récompense cette année Éric Neuhoff pour Cher cinéma français chez Albin Michel.